Bonjour à tous et à toutes. La parole nous dit « Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres. » Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6. « Ne dormons pas. » Nous vivons une vie à 100 à l'heure. Et le rythme que nous impose la société et qu'on s'impose a vite fait de nous submerger et de nous étouffer. Nous n'avons jamais fait autant de choses et un rythme aussi rapide et soutenu dans une seule journée que nos prédécesseurs dans l'histoire. Et nous risquons à tout moment l'asphyxie et la rupture. Et je me rends compte d'abord de cela pour moi, pour ma propre vie. Et si je ne me mens pas à moi-même, je dois bien considérer que je me laisse facilement endormir et anesthésier par le rythme de la vie, et même par le rythme que moi-même je m'impose. Et le risque pour moi, le risque pour nous tous, c'est d'entrer dans l'obscurité spirituelle. Celle qui nous envahit au risque de ne plus voir l'essentiel, comme nous avons chanté ce matin, Jésus-Christ, la lumière de nos vies. La parole de Dieu, mes frères et sœurs, nous invite à veiller en résistant par la foi, gardant les yeux fixés sur Jésus-Christ, afin de ne pas succomber à l'obscurité qui nous envahit si facilement. Alors je vous invite à lire ce matin un passage qui nous exhorte à ne pas nous laisser endormir, à ne pas me laisser endormir, et qui nous encourage à tenir ferme. Alors nous allons ouvrir nos Bibles et lire dans le premier épître de Paul aux Thessaloniciens. Nous lirons au chapitre 5, du verset 1 à 11. Premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 11. Quant à l'époque et au moment de ces événements, nous dit Paul, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront « Maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité », alors précisément la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour, et vous n'appartenez pas ni à la nuit, ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour et mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin que vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Amen. Cet enseignement est tellement fort, puissant, il nous parle tellement qu'on pourrait s'arrêter là. Mais ce passage que nous venons de lire se trouve dans le premier épître de Paul aux Thessaloniciens, et la première et la deuxième lettre de Paul à l'église de Thessalonique, a pour objet d'encourager les chrétiens de l'Église dans leur foi. Nous le voyons là dans ce passage. L'Église de Thessalonique, Thessalonique, port de Macédoine sur la mer Égée, cette Église a été fondée par Paul lors d'un de ses voyages missionnaires. Paul connaît bien cette Église, pour les avoir déjà enseignés sur ces sujets. Et Paul, n'ayant pas pu retourner à Thessalonique, il leur envoie cette première lettre afin d'encourager les jeunes convertis. Et il leur révèle par là même qu'ils sont devenus des exemples pour les autres chrétiens en tenant ferme face à la persécution. Et l'apôtre doit aussi, dans cette lettre, en profiter pour se défendre sur un certain nombre d'accusations et rappelle même son ministère auprès d'eux. Après cela, Paul encourage les chrétiens à la sainteté dans leur conduite, à l'amour fraternel, aux relations dans l'Église, à leur attitude face aux dons, et il les appelle à la fin de sa lettre à la prière. Et au milieu de ces exhortations, de cet enseignement, Paul apporte un enseignement en deux parties, sur les événements des derniers temps, au jour de la seconde venue du Seigneur. Il parle dans sa première partie de la résurrection des morts et dans sa deuxième partie du retour du Seigneur, et donc de la place des vivants dans ce retour. Et cet enseignement a pour but de rectifier certaines erreurs doctrinales chez les membres de l'Église et d'enseigner ceux qui ont besoin d'être édifiés sur ces sujets en leur rappelant l'essentiel pour leur vie. Paul rappellera d'ailleurs dans sa deuxième lettre au chapitre 2 ces sujets-là en y apportant des précisions. L'enseignement, donc, la première partie de l'enseignement de Paul qui précède notre passage et qui forme un tout avec ce passage, concerne les croyants décédés. Et Paul dit au chapitre 4, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui meurent, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Paul commence dans son enseignement par ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts en Christ. Et cet enseignement, Paul l'avait déjà donné auparavant à l'église de Thessalonique lorsqu'il était au milieu d'eux. D'ailleurs, dans sa deuxième lettre, Paul dira « Je vous ai déjà donné ces sujets quand j'étais au milieu de vous. » C'est un enseignement qui répond à un besoin, à une demande de l'Église. Et Paul veut, au travers de cet enseignement, fortifier les vivants en Christ. Il rappelle donc à l'Église que les croyants décédés seront ramenés à la vie par Jésus, qui est le premier d'entre tous. En cela, les morts en Christ précéderont même les croyants restés en vie. Et tous seront enlevés ensemble dans une nuée pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Voici comment Paul donne ses paroles à l'Église. Il dit au chapitre 4, versets 16 et 17, « En effet, mes frères, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. » Quel réconfort! Quel réconfort pour les frères de l'Église dans ces paroles de l'apôtre! Ces paroles doivent donc servir d'une part d'enseignement, comme le dit Paul, pour ne pas rester dans l'ignorance, mais aussi d'encouragement mutuel entre les frères. Et combien nous avons besoin aujourd'hui, nous aussi, de nous rappeler ces paroles avec certitude. Après cet enseignement, cette première partie, Paul apporte dans sa deuxième partie un enseignement sur l'époque et le moment où doivent se passer ces événements. Restant dans la continuité, Paul répond à un besoin des frères de l'église de Thessalonique et met l'accent cette fois sur l'essentiel en ce qui concerne les vivants en Christ. Et la première chose que Paul dit ici dans ce passage que nous venons de lire, c'est pour parler de ce temps du Seigneur. Et il dit au verset 1 et 2, rappelez-vous, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive dessus. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Vous savez bien, je vous l'ai déjà enseigné. Paul commence cet enseignement en livrant des paroles qu'ils connaissent, qu'ils savent, et que Jésus avait lui-même révélées à ses disciples. En Matthieu 24, 43, nous savons que ce jour, le jour du Seigneur, viendra comme un voleur. Et l'Église sait cela. Ce que dit Paul ici à l'Église, c'est que ce jour va venir soudainement. C'est une réalité, et une réalité qui ne dépend pas de la volonté des hommes, ni de leur souhait. Cela dépend de Dieu seul. Ce sera un moment inattendu qui viendra avec fracas. Et l'apôtre Pierre nous parle de ce moment, de ce temps, de cette époque. Dans son deuxième épître, au chapitre 3, verset 10, Pierre nous dit que le jour du Seigneur, lui-même le dit aussi, viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. C'est un jour où la puissance de Dieu par son Fils Jésus se révélera à l'humanité entière comme jamais auparavant. Et ce qui est important ici, ce n'est pas tant le moment et le jour où doivent se passer ces événements, mais la manière soudaine de cette seconde venue de Jésus. Ce moment dont personne ne connaît ni le jour ni l'heure viendra précipitamment. Et il y aura donc ceux qui seront surpris et ceux qui seront préparés. Et c'est là-dessus que Paul va insister auprès des chrétiens. Il ne donnera plus à ce moment-là de précision sur ce temps et ce jour du Seigneur, ce moment étant celui de Dieu seul. Le plus important ici, ce n'est pas de connaître à quel jour et à quelle heure va venir le Seigneur, mais c'est d'être préparé pour ce jour et pour cette heure. Que nous soyons morts en Christ, comme il le dit avant, ou que nous soyons vivants en Christ au moment du retour du Seigneur, le plus important, c'est d'être prêt pour ce retour. Et d'ailleurs, après cette lettre, Paul devra, dans sa deuxième lettre, apporter des précisions, malgré tout, sur le retour du Seigneur. En effet, des spéculations et des fausses doctrines ont vite fait de courir dans l'Église. Et il semble que les chrétiens de l'Église de Thessalonique se laissent ébranler par des personnes qui présentaient le jour du Seigneur comme étant déjà là, au moment de l'Église primitive. Et donc, l'apôtre Paul, en 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 5, dit dans sa deuxième lettre, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on en appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais déjà ces choses lorsque j'étais encore chez vous ? L'apôtre Paul leur dit « Ce jour du Seigneur n'est pas encore arrivé. Ne vous laissez pas ébranler par certains qui vous le disent comme déjà là. » Et en ce sens, l'apôtre apporte donc des précisions sur ce temps du Seigneur en leur disant que des événements doivent précéder ce jour. La venue de l'Antichrist et certaines de ses actions ne se sont pas encore produites. Ici, Paul, dans sa deuxième lettre, apporte donc des précisions sur ces événements qui doivent précéder le retour du Seigneur pour agrandir le champ de compréhension des chrétiens et éviter des fausses doctrines. Mais si Paul ne détaille pas autant dans sa première lettre ce retour du Seigneur, c'est qu'il met l'accent sur autre chose. et autre chose d'essentiel pour les chrétiens, autre chose qu'ils ont besoin d'entendre. Et Paul va s'attacher du verset 3 à 5 à montrer qu'il y a deux états, qu'il y a deux types de personnes. Et c'est vers là que Paul veut amener la compréhension des chrétiens vivants de l'Église, parce que cet enseignement est pour les vivants. Paul va leur révéler l'important au travers de ce jour du Seigneur. Et il va leur révéler l'important, on va dire, au travers de ce prisme que représente le jour du retour du Seigneur. Et tout d'abord, Paul parle du futur des hommes en général. Et plus précisément, il parle des non-croyants, ceux qui n'ont pas voulu entendre parler du message de la parole. Ceux qui ont refusé tout simplement la parole de Dieu. Au verset 3, Paul dit « Quand les hommes diront paix et sécurité, paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. » Ceux qui vivent dans ce monde et qui vivent avec l'espérance du monde et qui mettent leur espérance dans le monde, pour eux, la ruine sera soudaine. Pour eux, la recherche de la paix et de la sécurité dans ce monde est le leitmotiv de leur vie. Leur seule espérance est dans les choses de ce monde et ils ne veulent pas entendre parler de Christ. Leur non-connaissance de la vérité de Christ les plongera dans la désolation au jour du Seigneur. Ils ne seront pas prêts parce qu'ils n'ont pas voulu croire. Ils ont recherché, comme le dit la parole, les œuvres des ténèbres, c'est-à-dire de ce monde. Et la ruine sur eux sera soudaine. En Jean 3, au verset 18 et 19, Jésus enseigne ses disciples et il leur dit « Celui qui croit en moi n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ce jour sera donc pour eux la conséquence de leur péché et de leur ignorance, et une désolation et une destruction soudaine s'abattra sur eux. Aucune espérance dans ce monde, aucune espérance dans ce monde ne peut sauver les hommes. Le salut n'est pas dans ce que le monde promet, ni dans ce que le monde donne, mais elle est en Christ, qui est la lumière qu'ils ont négligée et rejetée. L'obscurité spirituelle, mes frères, les a envahis et les plongera dans les ténèbres et dans la perdition. C'est une réalité. Nous ne voulons pas souvent parler de cette réalité, mais elle existe. Nous ne devons pas nous voiler la face. L'obscurité spirituelle est dans le monde. En Hébreux 2, au verset 3 et 4, nous lisons « Mais comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Celui-même qui a été annoncé d'abord par le Seigneur nous a été ensuite confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu l'a appuyé dans leur témoignage par des signes, par des prodiges, par des miracles, par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Comment pouvons-nous négliger ce grand salut ? La colère de Dieu fondra sur eux. Et Paul dit, dans sa lettre à l'église d'Éphèse, « Ils seront appelés fils de la perdition. » En ce qui concerne les croyants, Paul dit aux frères de l'église, au verset 4, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous n'êtes pas des ténèbres. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Et nous sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Alors je crois qu'avant même de continuer plus loin, nous devons prier sans cesse pour que ceux qui sont au dehors puissent rentrer à leur tour dans la lumière. Il n'est pas possible de laisser le plus grand nombre dans les ténèbres. Nous devons nous battre, nous devons prier, nous devons supplier le Seigneur pour qu'eux aussi soient appelés des enfants de lumière. Paul dit avec force aux frères qui ne sont pas dans ce cas de figure. Ils ne sont pas comme ceux qui ne croient pas. Ils ne sont pas dans les ténèbres pour être surpris. Mais ce sont des enfants de la lumière et du jour. Cette lumière qui illumine tout, qui transforme les vies et qui instruit vient de Christ. Car Christ est la lumière. Par Christ, nous sommes donc préparés pour le jour de son retour. En croyant en Christ, qui est la lumière du monde, ils sont devenus par lui des enfants de lumière. C'est une certitude. Jésus dit à ses disciples dans sa parole, il leur dit « La lumière est encore un peu de temps au milieu de vous ». Il parle de lui-même. « Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. » Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » En cela, Christ nous éclaire et nous passons de l'obscurité spirituelle à la lumière spirituelle. Par Christ, il en est passé de, comme nous l'avons vu ce matin, nous passons de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière. Cet enseignement de l'apôtre Paul revient aussi régulièrement dans ses lettres. Lorsqu'il écrit à leur tour à l'église d'Éphèse, Paul dit « Autrefois, vous étiez dans les ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Toutes les églises de l'époque ou d'aujourd'hui ont besoin de se rappeler de cette vérité. « Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Si nous marchons donc dans la lumière, comme Christ est lui-même la lumière, nous avons communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et le sang de son Fils, Jésus, nous purifie de tout péché, nous dit le premier épître de Jean au chapitre 1. Paul parle de cette différence qui existe entre les fils de la perdition, ceux qui ne veulent pas croire jusqu'au bout, et les enfants de lumière qui ont été rachetés à un grand prix par le sacrifice de Jésus. Les uns, donc, au jour du Seigneur, seront surpris et les autres seront prêts. Cette séparation nette existe à cause de Christ. Et Paul insiste sur ce point. Il le dit deux fois, « Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Vous n'êtes point de la nuit ni des ténèbres. » C'est une certitude, les croyants en Christ sont des enfants du jour et non de la nuit. Et cela est une réalité par la grâce de Dieu. Cela ne doit faire aucun doute et ne doit souffrir d'aucune contestation. Il ne peut pas y avoir de confusion. Soit nous sommes de la nuit, soit nous sommes du jour. Et puisque les chrétiens sont du jour, puisque mes frères et sœurs vous êtes du jour, alors nous devons être totalement éveillés. Il s'agit bien évidemment là de facultés spirituelles. Nous devons être totalement éveillés pendant ce temps qui nous reste à vivre sur la terre. Et à cause de cela, Paul va maintenant encourager les chrétiens, toujours au travers de ce prisme du jour du Seigneur, à la vigilance. Étant des enfants du jour, nous ne pouvons pas nous voiler la face et nous ne pouvons pas penser aux risques qu'il y a dans nos vies. Nous ne devons pas nous mentir à nous-mêmes. Il est très difficile de ne pas se laisser happer par le monde qui nous entoure. Il est très difficile de ne pas se laisser happer par l'obscurité spirituelle. La vigilance est nécessaire afin d'être debout au jour du Seigneur. Et il y a donc un risque. Et ce risque, c'est de se laisser endormir spirituellement, de se laisser engourdir. Vous savez, quand vous avez les membres engourdis, la première chose qui arrive, c'est qu'on n'y prend pas garde. On ne se rend pas compte qu'on est engourdi. L'engourdissement vient sans qu'on s'en aperçoive. Et c'est quand on s'aperçoit qu'on est engourdi que tout à coup, on commence à bouger dans tous les sens et on essaye par tous les moyens de se désengourdir les jambes et les bras. et on n'arrive pas à faire les choses. Eh bien, il en vient de même de l'obscurité spirituelle. Au début, on n'y prend pas garde. On se laisse endormir sans y prendre garde. Et tout à coup, on se réveille et plein de choses se sont passées. Et on se laisse détourner du chemin de lumière. Lorsque Jésus enseigne ses disciples, et vous savez que Jésus était pas tendre avec ses disciples. Je crois que si on avait reçu un quart de ce que Jésus a dit à ses disciples, je ne sais pas si je serais resté. Mais en tout cas, cet enseignement était pour leur bien. Et il était pour leur révéler la vérité et pour les encourager. Même si cela était difficile à entendre, c'était pour leur bien. Alors si je dis ces paroles aujourd'hui, ce n'est pas des paroles qui viennent de moi, mais bien évidemment ce sont des paroles de Jésus, qui par amour les a dit à ses disciples. Il leur dit en Luc 21 au verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme, afin de paraître debout devant lui. » Il leur dit « Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas, ne s'engourdissent pas. » Et Paul ici, l'apôtre, rappelle la même chose aux chrétiens de l'église de Thessalonique. Il leur dit les mêmes mots. Ne dormons donc point. Il y a un combat à mener afin de paraître debout devant Jésus. Que nous soyons morts en Christ ou que nous soyons vivants au jour du Seigneur, l'objectif même, c'est d'être debout au retour du Seigneur. Et Paul va exhorter les chrétiens à veiller, à être sobres, bref, à la vigilance dans leur vie chrétienne. Et dans l'enseignement qui suit, à partir des versets 8 jusqu'à 11, et même après dans ses salutations, l'apôtre encourage les chrétiens à revêtir les armes spirituelles. Et c'est vrai que ce terme de combat, ce terme d'arme, ce terme d'armure correspond bien au combat spirituel qu'on doit mener. Revêtir les armes spirituelles afin de prendre pleinement possession du salut en Jésus-Christ. Paul encourage à vivre dans la présence de Christ et d'avoir une vie spirituelle en lui. Il encourage enfin à s'exhorter et à s'édifier mutuellement les uns les autres, à s'enseigner mutuellement les uns les autres, à se porter les uns les autres, à se soutenir les uns les autres. Bref, Paul appelle les chrétiens à grandir toujours plus dans la foi en Jésus-Christ afin de solidifier leur vie. On ne peut pas vivre de ça et là une foi en Christ au gré du vent. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas tenable. Et je me rends bien compte que pour moi-même, pour ma vie, il n'est pas tenable que parfois je m'impose de vivre une vie à la légère en Christ. Après cet enseignement, Paul va inviter les chrétiens de l'Église aussi à prier sans cesse. Prier sans cesse. Prier le jour, prier la nuit, prier quand vous marchez, prier quand vous êtes en communauté, prier quand vous êtes dans votre chambre. Ce n'est pas prier sur la place publique pour montrer que vous priez, mais c'est de prier sans cesse pour rester dans la communion du Père, au verset 17. Il dit aussi de ne pas éteindre l'esprit, au verset 19. Et de ne pas mépriser les prophéties. Donc de laisser pleinement la porte ouverte à l'Esprit de Dieu dans nos vies. Et dans ses salutations, Paul insiste sur cette nécessité de nous préparer dès à présent. Et il va encourager les chrétiens à quelque chose qu'on n'aime pas trop entendre. Il encourage les chrétiens à la sainteté et à la sanctification. L'apôtre Paul dit... Il dit à la fin de cette lettre, dans ses salutations, « Séparez-vous du péché, ou du moins ce qui y mène, et vivez une vie digne de Christ, afin d'être justement trouvé pur et irréprochable au jour du Seigneur. » Je vous lis ces paroles de Paul. À la fin du chapitre 5, au verset 23 et 24, Paul dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, c'est-à-dire irréprochables, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Le but de la sanctification, c'est d'être à l'image de Christ. C'est le but même de la sanctification. Et Dieu veut nous amener à être à l'image de Christ. Paul dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre les frères. » La volonté de Dieu et le but de la sanctification, c'est d'être rendu semblable à l'image de Christ. En cela, la sanctification, c'est de nous mettre à part, en nous séparant de notre ancienne nature et en nous consacrant pour Dieu afin d'être à l'image de Christ. Et cette œuvre s'accomplit dans nos vies, comme le dit Paul, par l'action de l'Esprit-Saint, premièrement. C'est l'Esprit qui peut nous sanctifier tout entier afin que notre âme, notre esprit et notre corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici le motif suprême qui doit nous pousser à la sanctification. Être conservé irréprochable. Grandir dans la foi, combattre le bon combat, se tourner vers Dieu pour être maintenu irréprochable. Cela ne peut pas venir de nous-mêmes. C'est l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Mais nous avons besoin de nous y attacher, de le rechercher, de supplier Dieu qui nous transforme. Alors ce jour du Seigneur qui sera pour certains un jour des désolations, un jour de condamnation, sera pour les autres un jour de triomphe de la foi. Lorsque Paul écrit sa deuxième lettre à l'église de Thessalonique, il la commence dans les 10 premiers versets par un encouragement merveilleux. Et dans sa deuxième lettre, il est toujours dans la continuité de la première. Il dit « Christ viendra » pour être en ce jour-là, il n'a pas fini avec ce jour du Seigneur, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Il viendra pour être glorifié dans ses saints. Et ses saints, c'est ceux qui seront restés debout au jour du Seigneur. Qu'ils soient morts ou qu'ils soient vivants, ils seront debout. C'est une promesse de Dieu. C'est pour ça que nous devons rechercher la sanctification sans laquelle, comme il nous est dit dans Hébreux, personne ne verra le Seigneur. Paul exhorte les chrétiens non pas à se poser 1000 questions sur le moment, sur le jour, sur l'heure. C'est bien de le savoir, c'est bien de se poser des questions. Mais ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, il est dans la nécessité de nous préparer au retour du Seigneur. Et la vie chrétienne est un combat de la foi. C'est un combat afin de résister jusqu'au bout. Et ce matin, lorsque j'ai dû préparer ce message, pour vous donner ce message, ça a d'abord été un combat pour moi-même. D'accepter de lire ces paroles pour moi-même. D'accepter d'abord de reconnaître que moi-même, je ne suis pas clean devant le Seigneur. Et que j'ai besoin moi aussi de grandir dans cette espérance. J'ai besoin de grandir et de laisser le Seigneur par son Saint-Esprit me sanctifier jusqu'au moindre recoin de mon cœur, juste au moindre recoin de mon corps tout entier et de mon âme. Nous sommes invités comme une sentinelle à veiller, à être vigilant et à la sobriété. Et cet enseignement de Paul, elle fait écho aujourd'hui à toutes les églises. Elle fait écho en tout temps, en toute époque. Elle est peut-être encore même plus présente pour nous aujourd'hui qui sommes de toutes parts attaqués. Pas par des attaques de l'époque comme la persécution, pas encore peut-être. Mais elle fait écho parce qu'aujourd'hui nous devons faire face à une attaque latente, à des attaques qu'on ne voit pas et qui sont ce que la vie nous propose, un endormissement, une mort à petit feu. Nous devons dès à présent faire attention à cette obscurité spirituelle qui fond sur le monde et qui veut nous envahir nous aussi, qui veut nous prendre dans cette vague. Alors pour terminer, je voudrais simplement vous lire ces paroles de l'apôtre Paul qui fait ce lien merveilleux dans son enseignement entre son premier passage sur les morts en Christ et ce deuxième partie d'enseignement sur les vivants qui restent. Et Paul dit au verset 10, ce verset qui est tout petit, mais si on le considère, il est merveilleux. Il dit aux frères, mes frères, si vous tenez ferme jusqu'à la fin, que vous soyez vivants ou que vous soyez morts, nous entrerons ensemble avec Christ dans la vie éternelle. Il n'y a pas plus beau verset. Si on doit retenir que par Christ, à cause du sang de Christ, que tous ceux que nous avons aimés et qui sont en Christ, qui sont unis avec lui, mais qui sont morts aujourd'hui, seront avec nous ensemble dans l'éternité. Que le Saint-Esprit nous éclaire et nous fasse vivre une vie digne de Dieu, afin que nous puissions vivre cette réalité pour nos vies. Amen.